Allez, de retour sur les ondes de Soleil FM et c'est avec bonheur, bien sûr, que nous rencontrons nos amis photographes. Là, il s'agira de Gilles Auroux. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, dites-moi, vous, c'est un travail à quatre mains, en fait, que vous nous proposez dans cet espace d'exposition.
Oui, exactement. Nous sommes deux photographes à avoir travaillé sur le peuple Badjao-Laot. C'est un peuple de nomades des mers qui naviguent dans tout le triangle de corail, en fait, entre Bornéo, les Philippines, le Sulawesi. Et puis, bah, comme tous les nomades, ils sont apatrides et ça devient de plus en plus compliqué pour eux de continuer à naviguer. Et donc, depuis quelques années, ils ont tendance à se sédentariser dans des villages sur pilotis.
Bah, c'est ce que j'allais vous dire. Vous me parlez de nomadisme et je vois des habilitations sur pilotis. C'est en fait la conséquence de la problématique. C'est quoi ? C'est les dérèglements climatique, c'est des problèmes géopolitiques.
Alors c'est surtout des problèmes géopolitiques parce que ça fait des siècles qu'ils naviguent sur l'eau. En fait, on les appelle les gitans des mers parce qu'au lieu d'avoir une roulotte, ils ont simplement un bateau et le bateau leur sert à la fois de maison, de mode de déplacement. Et puis, comme je disais, étant apatrides, ils n'ont pas de documents, ils sont reconnus par aucun gouvernement. Et comme tous les gens du voyage, ça devient très compliqué de se déplacer. La pandémie de Covid aussi, où ils avaient des restrictions de déplacement, a accentué encore la sédentarisation. Et maintenant, on les retrouve donc autour des côtes de toute cette zone, en fait. Et le reportage, là, les photos que vous pouvez voir, ce sont des photos qui ont été faites du côté de Bornéo.
Et alors, quand on va à la rencontre, on arrive à reconstituer au travers des photos. J'imagine qu'il y a un petit peu de travail journalistique à côté pour se documenter sur ces personnes qu'on rencontre. On échange avec Il y a quoi ? Il y a des personnes qui vous accompagnent, des personnes spécialisées sur le terrain. Comment ça se passe ? Comment ça s'organise ?
Oui, ça a été un travail essentiellement de reportage avec beaucoup de travail de préparation. Se renseigner un petit peu en amont sur les modes de vie, savoir ce qu'on voulait documenter. En fait, les Badjao, c'est un peuple qui est assez atypique. En ce sens qu'à force de vivre dans l'eau, ils ont développé une particularité physique comme une mutation génétique. Et les plongeurs Badjao sont capables de tenir quasiment 7-8 minutes sous l'eau sans respirer. Et on s'est aperçu au cours d'une étude scientifique qui a eu lieu il y a quelques années que leur rate était devenue plus importante, permettant de produire plus de globules rouges, de mieux oxygéner le sang, et c'est ça qui expliquerait leur performance. Donc ça, c'était notre motivation première pour aller les voir, parce que moi je suis plongeur et du coup un peuple qui tient 7-8 minutes sous l'eau, moi quand je tiens une minute je suis content déjà. Et donc on a monté tout le projet avec Karine et c'est comme ça qu'on a été les voir et qu'on a essayé de documenter leur mode de vie de manière exhaustive, à la fois dans les villages, donc sur l'eau, et puis aussi toutes leurs méthodes de pêche et de chasse, puisque c'est un peuple qui ne vit que de la mer. Ce ne sont pas des éleveurs, ce n'est pas des agriculteurs. Ils ont vraiment que la mer comme mode de subsistance.
Et alors, en n'ayant que la mer comme mode de subsistance, comment ils agissent pour obtenir d'autres type de protéines, de végétaux, je pense à du riz qui est souvent présent en Asie en règle générale. Ils agissent avec le biais du commerce, de l'échange.
Alors oui, ils deviennent de plus en plus des acteurs économiques. Le monde moderne commence aussi à les rattraper. Et puis pour leurs besoins, on va dire quotidiens, en termes d'alimentation, c'est beaucoup du troc. Eux vont pêcher du poisson, des crustacés, et vont échanger ça contre du tapioca, du riz. Ils consomment aussi des algues, enfin des produits marins. Mais c'est vrai que leur alimentation, c'est une alimentation qui est essentiellement à base de protéines. Et ça se voit dans leur physionomie puisque ils sont vraiment tout en muscles et avec pas un poil de graisse.
Bon. Et alors c'est bien parce que, enfin c'est bien. Ils vivent un drame bien entendu social, mais en même temps on se dit ils sont taillés pour l'avenir avec la montée des eaux. Ils sont sur leur terrain de jeu de prédilection.
Oui, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que si on écoute Darwin avec la théorie de l'évolution, il nous dit que l'homme est né de la mer et s'est adapté à la terre. Et eux, c'est comme s'ils poursuivaient leur évolution en se réadaptant finalement à la mer, et comme une prolongation de cette évolution. Donc oui, peut-être que d'ici quelques siècles, avec la montée des eaux, c'est eux qui ont choisi le bon chemin, on ne sait pas.
Ouais, et puis on viendra les quémander en leur disant aidez-nous, on ne sait pas comment faire. Est-ce que, d'après les recherches que vous avez menées avec votre camarade, vous avez des informations sur d'autres peuples, j'allais dire, de par la planète, qui ont un type de vie similaire sur les mers ?
Oui, bah, y a beaucoup de peuples à travers la planète qui vivent comme ça dans le milieu marin. Hein. Il y en a qui sont extrêmement connus. On peut citer les Vezo, par exemple, à Madagascar. Il y a aussi les Moken en Birmanie et sur les rives de la Thaïlande. Il y a énormément de peuples marins.
Et alors, je voulais savoir, vous avez glané les photos telles des paparazzi touristes et puis bonjour, clic-clac, et puis hop, je m'en vais. Vous avez essayé de pousser le contact un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez passé du temps avec eux ?
Alors, on a passé un peu de temps avec eux, mais c'est extrêmement compliqué parce que les Bajau, c'est un peuple, ils ont leur propre langage, donc déjà il y a la barrière de la communication. Et puis bien évidemment, on va pas chez eux comme ça, comme dans un zoo. Donc nous, encore une fois, c'était un projet logistiquement assez lourd à monter, puisque on avait affrété un bateau, un équipage, etc. Et notamment, on était accompagné par une interprète qui est une Bajau qui, elle, vit maintenant à Bornéo et donc qui parle à la fois le langage Bajau et l'anglais, qui a pu nous servir d'interprète et en même temps nous ouvrir les portes, puisque c'est sa communauté. On a été dans certains villages où elle avait vécu et voilà, on a été accueillis à bras ouverts.
Bon, vous confirmez qu'on se sent grandi quand on est aux côtés de ces gens-là ?
Bah, c'est une expérience qui est très enrichissante. On revient différent parce que on est confronté à des gens qui ont des valeurs que nous on n'a pas, ou en tout cas qu'on n'a plus. Chez les Bajau, par exemple, la compétition, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ils sont dans la collaboration. Ils vont se mettre ensemble pour travailler, pour construire des maisons, pour réparer des bateaux. Et c'est la force de cette communauté qui leur permet de survivre dans un environnement qui est quand même extrêmement rude. Et puis c'est des valeurs aussi, c'est des gens qui sont extrêmement heureux. Ils vivent dans un dénuement qui est presque total, mais ils sont pourtant heureux parce que ils n'ont pas comme nous, ils ne se créent pas des besoins ou des désirs. Ils sont tout à fait satisfaits de ce qu'ils ont, ils vivent au jour le jour. Et le simple fait d'être en vie dans ce milieu très très dur, c'est déjà une source de satisfaction pour eux.
Et le bonheur intérieur, c'est déjà la première des richesses. Alors, il y a ces photographies, mais il y a également un ouvrage.
Oui, alors effectivement, je disais en préambule qu'ils étaient confrontés à la modernisation, qui les rattrape petit à petit. Et on pense que leur mode de vie va malheureusement être amené à disparaître d'ici peut-être 2-3 générations. Et l'objectif, c'était aussi de ramener un témoignage sur ce mode de vie, tant qu'il était encore là. Et donc on a travaillé, on a rédigé ce livre qui contient toutes les photos, il y a un peu plus de 200 photos, et puis bien sûr des explications sur le mode de vie des Bajau, puisque c'est un peuple dont on entend très très rarement parler, qui sont un petit peu en dehors des radars.
Ben pour moi, c'était la première fois. Autant vous dire que vous avez réussi votre mission et vous avez porté la bonne parole, installée donc au sein même de ce grand chapiteau d'exposition. N'hésitez pas, venez découvrir cette exposition signée Karine Marchand, c'est bien ça, Marshall, je ne vois pas le L sur le panneau, et Gilles Auroux. Merci en tout cas de cette interview et bon festival.
Avec grand plaisir et merci à vous.